sommes quasiment dans les temps et nous avons devant nous dizaines de minutes pour discuter. Il y a plusieurs questions. Je vais prendre le micro baladeur.
Alain Rose, médecin à Arcosa. Merci pour votre présentation. J'ai juste une petite question par rapport à la confiance de la HAS dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème majeur, c'est que la HAS ne défend pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire que il y a des recommandations qui sont édictées par la HAS, mais derrière, il y a des sociétés savantes qui vont dire le contraire sur des bases qui sont plus scientifiques, mais simplement par du lobbying, et la HAS ne défend pas sa position. Donc, la pertinence des soins, c'est très bien d'en parler, c'est très bien de l'envisager, mais comment la HAS envisage de façon active d'y participer à partir du moment où, pour l'instant, la HAS n'a jamais, je dis bien jamais, défendu sa position. Donc comment elle peut établir auprès de tout le monde, aussi bien auprès des professionnels de santé qu'auprès de la population, une confiance dans ce qu'elle fait, puisqu'elle ne défend pas ce qu'elle fait. Donc il ne peut pas y avoir confiance. Donc on a là, aux yeux de tout le monde, la HAS est une institution d'État, mais qui est là, qui a été mise en place, mais qui travaille. Ok, très bien, mais en fait, qu'est-ce qu'elle apporte? Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de défense de ce qu'elle fait. Donc, qu'est-ce que vous envisagez pour que demain, la HAS change cet aspect-là et qu'il y ait, à ce moment-là, de nouveau une confiance dans ce qu'elle fait? Parce qu'elle leur a défendu son point de vue, elle leur a défendu ses recommandations, elle n'aura plus accepté qu'une société savante dise le contraire de ce qu'elle a dit dans ses recommandations.
D'abord, je préférerais que cette question soit posée à la présidente de la Haute Autorité de Santé. Hein, parce que mais ce que je peux vous dire, c'est que nous-mêmes, en tant que salariés de la Haute Autorité de Santé, c'est un sujet, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est pas assez... est-ce qu'on est reconnu dans le monde de la scientifique et dans le monde en France? On a essayé là, de faire un peu des enquêtes auprès des professionnels pour voir comment on était perçu. Donc, Haute Autorité de Santé, rien que le nom Haute Autorité fait que, voilà, ça, déjà, ça pose le sujet. Par rapport à la défense, de ce qu'on peut dire et qu'on ne défend pas. J'ai qu'un exemple pour l'instant dans ma tête, parce que je l'ai vécu dernièrement, qui est plutôt effectivement négatif. C'est-à-dire que vous avez vu, Le Monde a sorti un avis de Mme Fournier sur la fin de vie, sur le relancer le débat sur l'euthanasie. Nous, la Haute Autorité de Santé, on a été sollicité. Après, on ne rentre pas dans un débat sociétal. On est sollicité par la ministre et par la DGS pour travailler sur la loi actuelle et sur la loi Leonetti telle qu'elle était, pour la décrire et la faire appréhender par les professionnels de santé. On nous demande de la préciser, cette loi. Donc, on a fait un travail, etc. On a dans Le Monde une dame qui a ses convictions et qui a tout à fait raison de les dire, mais qui, à ce moment-là, dit la HAS a travaillé selon elle accuse la HAS et elle dit que la HAS a travaillé sans méthode, ce qui est faux. Donc moi, je suis allée voir la com de la HAS et j'aurais dit, répondons, on ne va pas se laisser, voilà, c'est dans le monde, c'est lu par tout le monde, il faut répondre.
Et ben voilà.
On n'est pas encore. Mais on répondra, mais oui, il faut attendre.
Quand
est-ce que ça va faire ça se passe? Essayons d'accueillir le maximum de questions et donc de ne pas relancer.
Je dois dire que, contrairement à bien d'autres circonstances, là je suis en faveur de la privatisation. Je m'explique. Je compare la Haute Autorité de Santé, qui est un organisme public, et puis la collaboration COFRAM, qui est un organisme privé, dont vous ne parlez pas. Comme si, en matière de pertinence, ils n'avaient pas contribué à faire qu'on commence à parler de preuves, de niveau de preuve. La confiance, c'est en particulier le fait que les niveaux de preuve soit quelque chose qui devienne habitude comme objectif. Comment se fait-il que vous cherchez des partenaires, celui-là n'en soit pas un ? Hein ? Comment imaginer qu'on puisse passer à côté de ce qui a été une expérience de 30 années pour établir progressivement un moyen de mesurer la réalité prouvée des faits de la médecine et de la santé.
On va prendre une question et puis madame Vautunet répondra.
Pour revenir aux recommandations de la HES, moi je suis médecin généraliste, donc on revient à la base parce que le tout finalement se finit entre deux individus au cabinet, ou dans une structure hospitalière, voyage, etc., entre un patient et un médecin. Et donc nous les médecins, on est nourris de tout. C'est-à-dire que les recommandations de la HAS sont un outil, mais un outil parfaitement critiquable, comme les autres. Donc effectivement que le débat s'instaure, c'est tout à fait possible entre les sociétés savantes, les recommandations de la HAS, des articles qu'on peut lire, des échanges avec d'autres médecins, et aussi, bien entendu, notre expérience fondée sur une pratique qui, à la fin, va nous permettre de prendre une décision avec aussi des choses qui ne sont pas directement inspirées par la médecine par l'épreuve, mais aussi avec tout notre vécu, le vécu du patient qu'on connaît, etc. Donc il n'y a pas d'outil magique qui va permettre un jour de nous faire raisonner de manière totalement rationnelle, tout à fait au bout de cette prise de décision, sans compter que les choses évoluent de manière constante, c'est-à-dire que les recommandations de la HAS vont être un outil non durable, qui va être remis en cause au fur et à mesure, bien entendu, des progrès, des enquêtes, des études, etc. Donc la HAS, évidemment, se défend contre les critiques, c'est normal, mais qu'elle soit critiquée, c'est aussi normal.
Gérard Delépine. Je suis chirurgien à la retraite et auteur de quelques livres avec mon épouse. J'aime beaucoup la commission de transparence de la HAS et ses avis. Il y a quand même une réserve qui m'ennuie beaucoup. C'est tous ces avis sont extrêmement précoces. Et c'est normal, ils sont saisis par les autorités de la pertinence du nouveau médicament. Et donc on donne un avis. Et lorsqu'ils donnent un avis de manière précoce, ils se basent sur l'étude pivot. Or, tous les travaux sérieux montrent qu'au moins la moitié des études pivot sont bidonnées. Tandis que les résultats diminuent la toxicité, on évalue très mal ou trop tôt, et que l'efficacité du médicament est constamment surévaluée. Dans ces conditions, les avis que donne la commission de la transparence, qui sont, je le répète tout à fait, que je cite et que j'aime beaucoup, devraient être vus systématiquement. Je devrais dire qu'on devrait donner un avis avec une durée de vie de 3 ans. Et au bout de 3 ans, on est obligé de le revoir, parce qu'au bout de 3 ans, on a les Global Expand Programmes. Et donc on a des résultats beaucoup plus larges chez les populations qui correspondent vraiment aux malades que l'on traite et non pas aux micro-petits essais sur un sous-groupe intéressant. Donc est-ce qu'un jour la HAS va s'amuser à donner une durée de la vie de ses amis ?
Dernière question, ensuite, madame.
Moi, j'aurais
répondra, et puis on pourra éventuellement continuer la discussion lors de la pause, car le temps nous presse.
On a vu arriver dans notre secteur de la médecine, la médecine fondée sur l'épreuve, on a vu arriver avec la stratégie nationale de santé, la politique basée sur l'épreuve, un petit passage sur les actions de santé publique où elle doit s'appuyer sur des. Et là, donc, vous avez décrit des choses que je partage complètement, parce que vous avez décrit en termes d'objectifs et vous avez identifié des leviers d'action, vous avez enfin, je suis d'accord, la chaise est critiquée, non, elle agit, donc forcément, vous allez être soumise à commentaires. C'est une question de propagande. Est-ce que par rapport aux interventions, l'éducation pour la santé, on regarde est-ce que c'est actif ou pas, la FMC à l'époque, est-ce que ça donne des résultats ou pas, le DPC aujourd'hui, par rapport aux différents leviers que vous avez identifiés, aux actions que vous mettez en œuvre, le conseil minimal, toutes ces diverses, est-ce qu'on a des analyses de ça sert, ça ne sert pas, ça c'est contre-productif, est-ce que c'est des formes que vous voulez, que vous avez l'intention de poursuivre, de prolonger, de fuser, est-ce que ça existe déjà peut-être.
Alors, très vite avant de tendre le micro à Marie-Hélène et à Rob Dunay, je vais quand même
deux réflexions. La première, c'est, et je rebondis un petit peu, c'est effectivement la validité des recommandations. Malheureusement, personnellement, je trouve que la HAS fait beaucoup trop confiance aux sociétés savantes. Et que malheureusement, quand on demande aux sociétés savantes de formuler des recommandations, eh ben, il n'y a pas que l'intérêt du patient qui rentre en jeu. Alors la deuxième chose, c'est il n'y a pas de portage des recommandations. C'est pour ça que pour passer de la recommandation, du concept à l'évolution et l'impact sur les pratiques des professionnels de santé, il faut un portage. Vous en avez parlé un petit peu, il y a deux leviers qui sont vraiment les plus efficaces. C'est l'interaction du professionnel de santé avec son logiciel. Donc c'est de faire en sorte qu'on intègre dans les logiciels, et ça, Étienne Cagnard avait fait une réflexion là-dessus il y a fort longtemps, et ça n'a pas avancé. Et puis la deuxième chose, c'est ce que font les industries de produits de santé, c'est ce qu'on appelle la visite itérative en face à face avec les professionnels. Alors, il y a la visite des dames, elle est totalement inopérante pour un certain nombre de raisons, mais sans portage, et c'est un des problèmes aussi pourquoi la campagne Choosing Wisely aux États-Unis ne produit pas de résultats, c'est qu'elle est que très peu portée. Il y a l'académie detailing de Jerry Avorn, mais bon, c'est pas généralisé comme ça aurait dû l'être. Et il faut vraiment des petits soldats à la haute autorité de santé pour diffuser la bonne parole. Voilà.
Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Alors, sur la question, la HAS doit être plus visible, je vous dis oui, on le sait, mais voilà, on a un service de communication qui s'y attelle, on a un collège aujourd'hui qui a tout de suite vu ça, et j'ai participé au premier collège, et il y a deux questions qu'ils ont posées systématiquement, c'est comment on se défend, comment on peut parler, et la deuxième question du collège, c'était de dire, vous produisez des recommandations, très bien, parfait, qu'est-ce qu'on fait après, comment on les suit, et comment on... Moi, les deux leviers que j'ai par rapport aujourd'hui, alors je ne parle pas de l'évaluation des médicaments, mais je parle des leviers par rapport aux productions que l'on fait sur les recommandations de bonnes pratiques et sur les recommandations de parcours que l'on peut être amené à faire. Aujourd'hui, il y a deux leviers pour nous. Il y a la certification des établissements qui peut être un levier par rapport à des recommandations qu'on met d'abord. Et le deuxième levier, c'est le DPC, c'est l'évaluation des pratiques professionnelles.
C'est le logiciel.
Et maintenant, la troisième, les logiciels. Alors, les systèmes de la décision, aujourd'hui, on les construit, on a commencé à les construire, mais on les construit, alors là, par contre, juste que sur les médicaments, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui est structurée pour les logiciels, c'est les médicaments. Donc, effectivement, vous allez voir apparaître, c'est déjà commencé, certains éditeurs logiciels l'ont fait, mais des aides à la décision pour la prescription du médicament qui seront passées par la d'une validation de la haute autorité de santé. La réponse que je peux vous faire par rapport à Cochrane, pour moi, je ne suis pas la responsable du service des recommandations de pratique, mais pour moi, Cochrane fait entièrement partie de l'analyse de la littérature que les recommandations de bonne pratique font. Et donc, on intègre obligatoirement tous les travaux Cochrane et tout le niveau de preuve, et la HAS ne travaille que sur des niveaux de preuve quand elle édite des recommandations, je dirais, de bonnes pratiques cliniques. Quand on travaille plus spécifiquement sur des recommandations de parcours, sur des recommandations pour la médecine générale, on implique dans les groupes de travail qu'on met les gens qui sont sur le terrain et on essaie de leur apporter, on enrichit les recommandations de la pratique, de la vraie pratique du médecin. Et c'est ce qu'on essaye de faire, on n'arrive pas systématiquement, en même temps, c'est ce qu'on essaye de faire.
Attendez, il y a quand même une précision qu'il faut apporter. Cochrane, c'est 35 000 personnes professionnelles n'ayant pas de lien d'intérêt. D'accord ?
Et la HAS, c'est 10 personnes, je pense. Ils sont aussi sans intérêt. Quant aux réflexions sur la commission de la transparence et son évaluation, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas responsable de ce service. Ce que je sais par contre que j'ai vu passer, c'est que tous les 5 ans, les médicaments sont revus. Peut-être pas assez, mais
fréquent que ça, parce qu'en pratique, le problème, c'est que les médicaments passent devant la commission de transparence, parce que
pour être commercialisé, il faut qu'ils passent devant la commission de transparence. Donc derrière, les labos ont tout intérêt à ce que le produit passe le plus rapidement possible devant la commission de transparence. Après, ce qui se passe, et quand on suit les avis de la commission de transparence, comme je le fais depuis 2004, c'est très visible, c'est que les labos ont tout intérêt à revenir dès qu'ils ont des données complémentaires pour avoir une nouvelle évaluation, c'est-à-dire faire une demande de réévaluation de leur produit. Donc ça se fait.
Ça se fait uniquement quand c'est dans l'avantage du labo. Donc c'est pas utilisé. Si le labo qui demande, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Et le labo demande quand il a sorti une étude qui a été utilisée, parce qu'on ne retrouve pas les résultats en principe de l'IL.
En tout cas, tous les 5 ans, ce n'est pas labo qui demande, mais c'est une.
C'est très bien, mais peut-être est-ce qu'il faudrait faire moins.
On est hors délai là.
La question, c'est une phrase, c'est. Vous parlez de l'intervention du patient pour définir de nouvelles recommandations. Le problème, c'est que le patient il est multiple, voire unique. Comment allez-vous faire ?
Aujourd'hui, les patients, on essaye de. D'abord, on travaille avec les représentants, hein, les patients, parce que ce n'est pas chaque patient, malheureusement. Mais on travaille avec les représentants patients. On met des patients dans tous les groupes de travail dès qu'on élabore des recommandations. On met des patients dans nos commissions. Il va y avoir des nouvelles organisations pour que la HAS, justement, pas une commission, mais qu'il y ait un comité ad hoc essentiellement pour les patients, et puis pour définir avec nous aussi des stratégies. Voilà, on essaye de répondre comme ça, c'est-à-dire de les appliquer aussi. C'est
bien. Merci beaucoup.